Radio Prague, les informations.
Investissement chinois en Europe. Le Sénat rejette la loi sur l'immunité parlementaire à vie. L'aversion de la population majoritaire contre les Roms augmente. Le Premier ministre tchèque Petr Nečas participe ce jeudi à Varsovie en Pologne au sommet qui réunit 16 représentants des pays d'Europe centrale et orientale et le Premier ministre chinois. L'objectif est d'abord de renforcer la coopération économique entre les deux parties. 300 sociétés chinoises et 450 d'Europe centrale et orientale, dont 300 polonaises. La Chine a investi 622 millions d'euros dans la région entre 2004 et 2010, mais le montant annuel de ces investissements a doublé au cours des dernières années, selon un récent rapport de l'Institut de développement d'Europe centrale et orientale. Selon le comité tchèque d'Helsinki, en République tchèque augmente l'aversion de la population majoritaire contre les Roms. Les derniers sondages démontrent qu'elle a augmenté au cours des derniers 10 ans de 60 à 75%. Une déclaration du membre du comité tchèque d'Helsinki, Petr Uhl. À son avis, ce climat aggrave encore la situation sociale des Roms, qui font partie de la couche la plus démunie de la société tchèque. Petr Uhl a également attiré l'attention sur la croissance du nombre de sympathisants du mouvement néo-nazi. Český rozhlas, la radio publique tchèque qui prépare une importante transformation de ses structures intérieures, envisage de licencier 15 à 20% de ses employés. La radio publique réduira également le nombre de ses collaborateurs externes. Une déclaration du directeur général de la radio publique tchèque, Petr Duhan. Le nombre des stations de Český rozhlas sera également réduit. Ces mesures seraient dues notamment à la baisse du taux d'audience de la radio publique. Le Sénat n'a pas approuvé le projet de loi sur la suppression de l'immunité à vie des membres du Parlement et des juges. Selon cet amendement, les membres du Parlement et les juges ne devraient être protégés par l'immunité que pendant la durée de leur mandat. 24 sénateurs seulement ont voté pour ce projet et il manque 2 voix pour l'adoption de cette loi. L'immunité à vie des membres du Parlement et des juges sera donc conservée. Le ministre tchèque de l'Intérieur, Jan Kubice, a demandé aux organes compétents de réexaminer la procédure de nomination du directeur de la police, Petr Lessy, en janvier 2011. Selon les informations non confirmées, le nom du nouveau directeur de la police aurait été connu déjà 1 jour avant sa nomination, ce qui pourrait mettre en cause la légitimité du directeur. Cette initiative du ministre de l'Intérieur est appuyée par le premier ministre Petr Nečas, qui a souligné dans ce contexte que Jan Kubice jouissait de sa pleine confiance. Le Sénat a adopté ce jeudi l'accord relatif à l'échange entre la République tchèque et la République de Saint-Marin de renseignements en matière fiscale afin de lutter plus efficacement contre les fraudes. L'administration tchèque aura désormais notamment la possibilité de vérifier si les entreprises tchèques payent bien leurs impôts sur leurs revenus et leurs biens dans le 5e plus petit État du monde, considéré comme un paradis fiscal. Météo. Après une journée de mercredi marquée par un temps variable, c'est un temps chaud et très ensoleillé qui a régné sur l'ensemble du territoire ce jeudi, jour de la fête des Otto. Les températures ont été en hausse et ont varié entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Ces tendances au grand soleil devraient se maintenir au moins jusqu'à la fin de la semaine. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord la fronde des syndicats contre la politique d'austérité menée par le gouvernement, une fronde qui se poursuit également sur fond de crise politique. Les syndicats promettent au gouvernement des grèves et des manifestations douloureuses, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Place ensuite à un entretien rare avec le réalisateur français de films d'animation Michel Oslo. Michel Oslo est à Prague cette semaine, il s'est confié sur Prague notamment et le court-métrage qu'il a consacré à la ville, tout cela au micro de Radio Prague. Et puis comme tous les 15 jours, place sera faite dans la seconde partie du programme aux Tchèques célèbres et moins célèbres, aujourd'hui consacré à une grande dame, ancienne prisonnière politique dans les années 1950. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. La fronde des syndicats contre la politique d'austérité du gouvernement se poursuit. Les représentants de la Confédération tchéco-morave des unions syndicales se sont réunis jeudi afin de discuter des prochaines étapes de la protestation contre le gouvernement. Les syndicats pourraient appeler prochainement à la tenue de grève dans les transports et à des manifestations de grande ampleur. Selon le chef des syndicats, Luboš Pomajbik, les grèves pourraient commencer à la mi-mai. S'il n'a pas confirmé la date du début de la mobilisation, le président de la Confédération syndicale, Jaroslav Zavadil, a toutefois affirmé qu'elle pourrait être douloureuse. Plus de précisions avec Paul Bauer.
Après la manifestation historique qui a rassemblé près de 100 000 personnes pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement samedi dernier, les responsables syndicaux pourraient appeler très prochainement à la tenue d'une nouvelle mobilisation et d'importantes grèves dans le pays. Mercredi, le président de la Confédération tchéco-morave des unions syndicales, Jaroslav Zavadil, a ainsi prévenu dans un communiqué de presse que le mouvement de protestation, je cite, « sera douloureux afin que le gouvernement prenne conscience de la colère populaire et qu'il n'était plus possible de continuer de diriger le pays dans ce style ». Fin de citation. Refusant de nouvelles négociations, le vice-président de la Confédération, Václav Pitzel, appelle l'ensemble des responsables de la nouvelle plateforme civique « Stoppons le gouvernement » qui unit les syndicats et les responsables d'associations afin de forcer l'arrêt des réformes. On écoute Václav Pitzel.
Après la réaction des représentants du gouvernement à la suite de la manifestation de la semaine dernière, nous sommes convenus qu'il fallait continuer la mobilisation non seulement avec les syndicats, mais également avec les initiatives citoyennes et les associations avec lesquelles a été fondée la plateforme « Stoppons le gouvernement ». Nous avons trois revendications, l'arrêt des réformes, la démission du gouvernement et l'organisation d'élections anticipées. Le gouvernement est obstiné dans les mesures qu'il prépare et nous ne voyons pas le sens de nouvelles négociations, notamment en raison du fait que le gouvernement est incapable d'écouter des propositions différentes. En outre, ce gouvernement a perdu la confiance des citoyens et nous ne souhaitons pas qu'il continue d'imposer des réformes qui toucheront de manière écrasante la majorité de la population.
De son côté, respectant le droit de manifester, le gouvernement rétorque que si les mesures d'austérité ne sont pas engagées rapidement, l'État ne pourra pas assurer le maintien du système social dans les prochaines années. Le ministre du Travail, Jaromír Drábek.
Je dois reconnaître que le gouvernement est obstiné dans le renforcement et la consolidation des finances publiques. Si le gouvernement devait renoncer à ses objectifs dans 3 ans, les syndicats appelleront à la mobilisation contre la baisse des retraites, la baisse de la qualité des soins de santé, telle que nous la constatons dans plusieurs pays. C'est pour cela que le gouvernement est obstiné.
Le gouvernement mené par Petr Nečas est actuellement au centre de 2 types de critiques qui motivent la mobilisation syndicale et citoyenne. La première porte sur le volet économique et la gestion des fonds publics. Les syndicats et les membres de l'opposition, les sociaux-démocrates du TSSD en tête, reprochent au gouvernement de ne pas saisir pleinement les enjeux sociaux et économiques de la gestion du budget de l'État. Depuis plusieurs jours, les institutions financières internationales, Fonds monétaire international et Banque centrale européenne, craignent que les plans d'austérité étouffent les économies de l'État et recommande au gouvernement des politiques volontaristes en faveur de la croissance. La récession du Royaume-Uni observée par les médias internationaux constitue l'un des exemples les plus frappants des limites des politiques d'austérité lorsqu'elles ne sont pas conjuguées à des mesures favorisant la croissance. Or, selon les syndicats, le gouvernement tchèque refuse de modifier sa politique économique qui, par de nombreux aspects, rappelle celle menée depuis Londres par James Cameron. La deuxième critique porte sur la place de l'éthique au sein d'un gouvernement rongé par des luttes intestines, des affaires de corruption et des manquements graves dans la gestion des affaires de l'État. Gestion chaotique des fonds européens, lutte insuffisante contre la corruption notamment, et dont la confiance et l'avenir seront soumis au vote des députés ce vendredi.
On passe à la culture. Le réalisateur de films d'animation Michel Oslo est de passage en République tchèque cette semaine. À l'occasion de son invitation au festival Anifest à Teplice, l'Institut français de Prague propose de revenir sur le parcours du réalisateur de Kirikou ou des trésors coups cachés à travers une exposition et la diffusion de certains de ses films. Parmi ses films, le court-métrage en ombre chinoise, Le pont du petit cordonnier, un conte sur Prague que Michel Oslo a évoqué au micro de Radio Prague.
C'est quelque chose de fort et de marquant. J'ai découvert Prague et la Tchécoslovaquie à l'époque du communisme, quand j'étais plutôt jeuneau, Et c'était un de mes premiers vrais voyages à l'étranger. Et c'était impressionnant parce que le monde était partagé en deux, l'Est et l'Ouest. Il y avait un rideau de fer. L'autre côté du rideau de fer était enfoui sous une chape de ciment soviétique. Et ce côté ne semblait plus exister pour l'Occident. Et j'ai traversé le rideau de fer et je suis allé dans un pays communiste. Et c'était très émouvant parce que j'ai découvert que tout existait encore, qu'il y avait une ville d'un charme incroyable, avec toute une histoire dramatique. La beauté de la ville, c'est en fait de la dentelle posée sur un charnier, fait par les... c'est quoi? C'est les Habsbourg. mais c'était passionnant. Je voyais aussi je sentais les gens qui ne voulaient pas être soviétiques. Ça se voyait aussi à leur tenue vestimentaire. Et j'ai été touché par cette ville. Et je me suis dit, c'est tellement beau. Et je ne m'en doutais pas. On ne me l'avait pas dit. Je veux faire un film qui se passe à Prague et qui montre cette architecture et ce pont.
Et justement, ce court-métrage s'intitule « Le pont du petit cordonnier ». Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots?
Donc, à l'époque où j'ai pensé ça, c'était il y a très longtemps. Et je ne pensais qu'en court-métrage. Et aujourd'hui encore, j'aime le court-métrage. Et presque une vie après, j'ai tenu la promesse à moi-même. Et j'ai fait ce film qui célèbre Prague. J'ai mis aussi la musique. Avec un salut à Dvorak, à Smetana et à Janáček. Et j'ai pris une légende que j'ai lue dans un livre de contes juifs, mais le système apparaît dans d'autres contes. Et voilà, c'est une histoire relativement profil bas, mais qui touche les gens. Mais en fait, tout ce que je fais est très sincère, et en général, les gens sont touchés. Et ça part d'un petit village juif, et petit à petit il y a un rêve incroyable, et petit à petit on se rapproche et on arrive à Prague où il se passe des choses, où il ne se passe rien mais il se passe quand même quelque chose. Mais il y a en tout cas la fascination d'un pays, et j'ai hâte de le montrer ce soir. Je pense que je vais faire battre les cœurs.
Cordonnier, réveillez-vous.
Je rêvais.
Un beau rêve ?
Oui. Dans une belle ville, un pont magnifique, décoré de statues noires avec des ornements d'or. Le personnage du septième monument...
tient un lys d'or et un enfant.
Et ils ont une marguerite plantée dans leur crâne.
Vous parlez bien légèrement de l'auréole de Saint-Antoine et de l'enfant Jésus.
Mais vous faites le même rêve que moi ?
Comment un rêve ? Quand je ne voyage pas, je passe tous les jours sur le pont Charles à Prague, où j'habite.
Ce pont existe ?
Mais oui ! Vous avez dû en entendre parler, pour en rêver si bien.
Non, pourtant.
Prague est un long chemin, et mes chaussures, cordonnier, ont besoin d'être ressemelées.
Alors justement, vous avez évoqué les marionnettes, qui font ici partie de l'histoire du cinéma tchèque. Vous avez également évoqué Jiří Trnka. Vous êtes ici à Prague, mais c'est aussi parce que vous êtes invité au festival Anifest, qui se tient à Teplice, donc dans le nord de la République tchèque. Cette année, 100 ans se sont écoulés depuis la naissance du cinéaste, donc qui était... et marionnettiste, qui était Jiří Trnka, auteur également donc d'une vingtaine de films d'animation, alors comme Les vieilles légendes tchèques ou Songes de nuit d'été. Ce sont des titres qui font également penser au titre de vos films. Voyez-vous d'autres points communs avec Jiří Trnka, qui travaillait également avec des moyens minimalistes? Alors lui, c'était la marionnette, vous, c'était plutôt le papier. Est-ce que vous voyez d'autres points communs avec Jiří Trnka? Et là encore, est-ce que son travail vous a aidé à inspiré?
En gros, tout le monde m'a inspiré, et j'ai pas vraiment une sorte d'idole à mettre au-dessus des autres, mais j'admire énormément cet homme, et je recommande aux gens de se débrouiller pour voir La Main, son dernier film, avec toute une histoire terrible. C'est, il a, avec la main, qui est un film passionnant, prenant, et vraiment son meilleur aussi du point de vue cinématographique. Il a froidement dit ce qui se passait dans son pays sous le régime communiste, et on l'a puni. Après ce film, n'a plus pu faire de film. Et il a vendu des jouets de bois aux touristes. Et c'est un film qu'il faut voir.
Voilà, et précisons encore que vous pourrez entendre et lire l'intégralité de l'interview que Michel Oslo a accordée à Radio Prague dans une émission spéciale, une émission qui sera diffusée le mardi 8 mai prochain. En attendant, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui, comme tous les 15 jours, est consacrée aux Tchèques célèbres et moins célèbres. Dagmar Šimková a passé 14 ans dans les geôles communistes entre 1952 et 1966. Décédée en 1995 en Australie, elle a décrit cette terrible expérience qui est aussi celle de plusieurs dizaines de milliers d'autres femmes tchèques et slovaques persécutées sous le régime totalitaire dans un livre intitulé « Byli jsme tam taky », c'est-à-dire en français « Nous aussi, nous y étions ». Ce mince ouvrage ne lâche pas le lecteur dès les premières pages, publié pour la première fois en 1980. Par la maison d'édition des époux Škvoretsky à Toronto. Il a été réédité à Prague en 2010, illustré de nombreuses photographies. Elles ont été retrouvées par l'historienne Pavlina Korova, qui prépare une biographie de Dagmar Šimková et qui est aussi l'auteur d'une exposition itinérante retraçant son destin. Pavlina Korova est l'invitée de Magdalena Rozinková dans les Tchèques célèbres et moins célèbres, un magazine que nous vous proposons aujourd'hui en rediffusion.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
L'homme en prison prend une allure tragique. C'est un lion captif, humilié, qui pleure à l'intérieur. La femme en prison devient un petit rongeur fou de rage, une martre ou une belette qui se met tout de suite à creuser la terre sous le plancher et qui en plus appelle les autres martres et belettes à la rejoindre, écrit Dagmar Šimková dans son livre « Byli jsme tam taky, nous aussi nous y étions ». Devenir une belette est d'après elle un des moyens de survivre dans un lieu aussi désastreux et inhumain qu'est la prison dans un pays totalitaire. Enfant et adolescente, Dagmar Šimková avait tous les atouts pour vivre une vie belle, heureuse et sans souci. Elle est née en mai 1929 dans une famille d'un banquier de Písek, une jolie ville en Bohême du Sud, construite sur les rives de la rivière Otava. C'était une famille unie et cultivée pour laquelle Jaroslav Šimek a construit une splendide villa située un peu à l'écart de Písek et entourée de verdure. Elle portait le nom de sa femme et de sa fille aînée, Marta. Alors que sa sœur était une passionnée de l'équitation, Dagmar aimait la musique. L'une des plus belles filles de Písek, aux longs cheveux bruns et aux grands yeux noirs, allait souvent danser dans le fameux café de l'hôtel La Rose Blanche. On écoute l'historienne Pavlina Kourova.
Elle aimait beaucoup la musique, elle avait du talent puisqu'elle jouait du piano. Dagmar aimait aussi danser. Petite fille, elle a appris à faire des claquettes. Jeune, elle adorait le jazz. Elle avait aussi du talent pour les arts plastiques. Elle illustrait pour ses neveux, qu'elle ne connaissait pas à l'époque, ses lettres de prison.
Jaroslav Šimek est mort subitement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dagmar, âgée de 16 ans, a commencé à étudier les langues étrangères dans une école privée pour s'inscrire en 1948 à la faculté des lettres de l'université Charles, où elle devait étudier l'histoire de l'art et l'anglais. Mais avec l'arrivée des communistes au pouvoir, tout change pour cette famille étiquetée désormais comme bourgeoise et donc ennemie aux yeux des autorités. Une seule pièce de la Villa Marta est réservée à sa propriétaire et à ses deux filles. Pas question que Dagmar fasse des études, elle travaille comme ouvrière dans plusieurs entreprises et, avant son arrestation en 1952, comme aide-soignante à l'hôpital. 2 ans avant, sa sœur Marta réussit à s'enfuir en Australie. Dagmar et sa mère n'ont pas cette chance et n'échappent pas à l'arbitraire communiste. Dagmar distribue à Písek des tracts anticommunistes. 2 de ses amis, recherchés par la police, se réfugient pour quelques jours dans la villa. En 1952, âgée alors de 23 ans, Dagmar Šimková est donc arrêtée et condamnée à 15 ans de prison pour des activités dirigées contre l'État. Sa mère va bientôt la suivre.
«
plus tard, dans son exil australien, Dagmar allait se souvenir, dans son livre « Nous aussi, nous y étions », de cet enfer qui lui a volé sa jeunesse. C'est un récit à la fois terrifiant et passionnant, écrit sans pathos, d'une manière la plus sincère possible, parfois avec ironie et même avec humour, dans une langue belle et riche. Dans les geôles communistes, à Pardubice et ailleurs, comme dans le camp de travail quelque part en Slovaquie, les femmes sont humiliées au plus profond et sont mutilées moralement et physiquement, battues, sous-alimentées, tenues dans des conditions sanitaires inimaginables. Après la grande amnistie de 1960, notamment, les prisonnières politiques font l'objet d'attaques de la part des prisonnières de droit commun, avec qui elles partageaient les mêmes cellules. Pavlína Kourová.
Právě proto ona v tom vězení se trvávala tak dlouho.
Si Dagmar Šimková est restée aussi longtemps en prison, si elle n'a pas été libérée lors de la grande amnistie, c'est parce qu'elle était un élément rebelle. Elle ne se laissait pas faire. Elle ne cessait de se plaindre auprès du ministère de l'Intérieur et d'autres institutions, par exemple du fait que les communistes, contrairement aux nazis, interdisaient aux prisonniers d'avoir la Bible et des objets religieux. Elle protestait contre le fait qu'il était interdit dans les prisons d'apprendre des langues étrangères. Lorsqu'on a découvert chez une prisonnière un bout de papier avec des mots étrangers, celle-ci risquait une correction. Donc l'enfermement dans une cellule sans fenêtre où les femmes étaient nues et ne recevaient de la nourriture qu'une fois tous les trois jours. Dagmar participait aussi aux grèves de la faim, c'était aussi une forme de rébellion contre leurs conditions de vie. Dans la prison de Pardubice, par exemple, les cellules étaient surpeuplées et à un moment donné, une partie du bâtiment risquait de s'effondrer.
Dans son livre, où Dagmar Šimková raconte entre autres les destins de plusieurs prisonnières politiques, filles de koulaks ou de petits entrepreneurs, elle écrit de cette même prison surpeuplée que, je cite, « Plus jamais dans ma vie je n'ai goûté un café aussi bon que celui que l'on buvait dans les toilettes de la prison de Pardubice ». En effet, la complicité entre les prisonnières politiques, la circulation des pensées, était aussi un moyen de survie. Dagmar Šimková nous parle de plusieurs femmes remarquables qu'elle a ainsi connues. Elle les appelle dans son livre par leur prénom, parfois par leur surnom. Pavlína Kourová a pu dévoiler leur identité à l'aide des archives. On trouve parmi elles Jiřina Zábranová, mère du poète tchèque Jan Zábrana, Nina Svobodová, qui mettait en scène en prison des spectacles improvisés, ou encore Magdalena Schwarzová, emprisonnée aussi par les nazis et qui vit aujourd'hui dans un monastère en Pologne. Mais toutes les activités intellectuelles dans la prison de Pardubice gravitaient autour de Růžena Vácková.
Beaucoup de prisonnières de l'époque se souviennent de Růžena Vácková, qu'elles appelaient Růženka. Professeure à l'université Charles, elle était plus âgée que les autres. Emprisonnée suite à sa participation à la marche des étudiants en 1948, elle n'a quitté la prison qu'en 1967. C'était une véritable autorité intellectuelle et morale pour ces jeunes filles qui ne pouvaient pas étudier. Dans les toilettes, elle leur donnait des conférences sur l'histoire de l'art et l'archéologie. Une autre prisonnière, Dagmar Skálová, a réussi à transcrire certaines de ses conférences. Suite à un accident, elle portait un corset et cachait le cahier dedans. Après 1965, les prisonnières ont réussi à le transporter hors de la prison. Dagmar Skálová a gardé ce cahier jusqu'à la révolution de velours et l'a transmis ensuite aux historiens de l'université Charles. C'est ainsi que les conférences de prison de Růžena Vácková ont pu être publiées sous forme de livres.
Dagmar Šimková a quitté la prison en 1966. Elle a de nouveau travaillé comme ouvrière à Písek et vivait très modestement car tous les prisonniers politiques devaient payer à l'État une sorte de compensation pour leurs années de détention. Après l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie de 1968, Dagmar et sa mère, comme beaucoup d'anciens prisonniers politiques, prennent le chemin de l'exil et vont rejoindre Marta en Australie. Elles vivent d'abord dans le bush australien où le mari de Marta travaille sur un chantier et s'installe ensuite à Perth. Pavlína Kourová.
Nous savons de ses lettres de l'époque qu'elle était fascinée par les dizaines d'espèces de perroquets, par les crocodiles et les fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle devait ressentir une grande liberté. À Perth, Dagmar a travaillé dans un restaurant et aussi un peu comme mannequin parce qu'elle a toujours été très belle. Elle a aussi suivi un cours de cascadeur qui était proposé sur le tournage d'un film. Tout se passait bien jusqu'à la mort de sa mère en 1970. Là, elle a perdu la personne la plus proche qui avait en plus cette même expérience de la prison et ses lettres se sont assombries. Je crois que cela a été un autre coup très dur pour elle.
Un coup dur que Dagmar Szymkowa a tout de même surmonté. Diplômée d'histoire de l'art et de travail social à l'université, elle a travaillé entre autres comme thérapeute en prison. Parallèlement, elle s'est consacrée à une autre activité intéressante, à la création de tableaux et de bijoux en émail. Je ne parle ni de la prison, ni de ma situation financière, ni de ma vie sentimentale. Je n'aime pas les regards compatissants, écrit Dagmar Szymkowa à la fin de son livre, dans un des rares passages évoquant sa vie en Australie. Celle-ci a été quand même marquée, autant que l'on sache, par deux rencontres. D'abord avec celle du chanteur tchèque Karel Krell, qui a partagé avec Dagmar Szymkowa son expérience de l'exil. C'est lui qui l'a poussée à écrire le récit de sa vie. La deuxième rencontre a été celle qu'elle a faite un jour en rentrant du travail dans un arrêt de bus avec un immigré allemand en Australie et qui est devenu son compagnon à la fin de sa vie. Dagmar Szymkowa est revenue à plusieurs reprises dans son pays d'origine. Elle est morte du cancer en février 1995 à Perth. Récemment, son neveu australien et sa famille ont pris contact avec Pavlina Kourova et ont emmené à Prague une valise remplie de documents, de lettres, de photographies et de tableaux de Dagmar Szymkowa. Ces archives familiales figureront dans la biographie de Dagmar, préparée par Pavlina Kourova et qui est à paraître aux éditions Academia.
Voilà, et c'est la fin pour aujourd'hui du bloc Actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy.